Brisons la tasse.
Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission de Brisons la glace, le podcast francophone de Norvège. Aujourd'hui, retrouvez la suite de notre entretien avec Thomas Bassetto, représentant des Français vivant en Norvège et en Islande. Il reviendra sur son expérience avec les Français fraîchement débarqués en Norvège, ainsi que leurs interrogations. Mais avant ça, nous allons parler de dating et de la culture de la séduction, Saint-Valentin oblige. Bonne émission. Pour rebondir avec le sujet de la Saint-Valentin, je me suis un peu posé des questions. C'est quoi le profil des premiers dates avec des Norvégiens ou des Norvégiennes? Alors, je me suis organisé un petit questionnaire sur Instagram et j'aimerais vous partager les retours et après on pourra en discuter.
T'as eu beaucoup de retours du coup?
J'en ai eu quelques-uns.
On s'arrête là.
Donc, 50-50, avez-vous déjà eu un rendez-vous avec une personne norvégienne? Donc, ce n'est pas tous les Français qui datent des Norvégiens, des Norvégiennes.
Après, s'ils arrivent mariés comme Thomas aussi. Ouais.
Voilà, donc j'imagine que Thomas, ça fait partie de ton cas. Mais ce qui est rigolo, c'est que 100% des personnes qui ont répondu à ce petit questionnaire ont fait le premier pas dans le date. Il paraît que les Norvégiens, ils brusquent personne, ils sont vraiment dans le stand-by, quoi. Ils attendent qu'on les approche.
Complètement.
Ouais, tu peux.
Je peux confirmer, ouais.
Donc, c'est-à-dire que même si tu sens qu'il y a un feeling.
Ouais, ils sont dans le jeu de regard, ils ont regard et regard, mais ils n'ont rien à faire. Donc il va falloir avancer avec les jambes. Ils avancent avec les yeux, nous faut avancer avec les jambes.
Et ça t'a un peu perturbé
Bah ouais, attends, j'ai jamais fait ça de ma vie.
Ouais, et du coup, tu t'es...
Bah, faut se lancer. Après, on comprend que c'est un peu un sport national pour les nanas, ici, de savoir faire ça, et ouais, on s'adapte.
C'est plus souvent l'initiative de la femme, non, ici hein.
Voilà, ouais, c'est un peu ce que j'ai observé, et les retours de mes copines aussi.
Parce que, dans le cas contraire, un Français qui veut dater une Norvégienne, est-ce que tu sens la différence? Est-ce que... ils approchent les hommes plus facilement
Après, je suis un Français qui parle avec son accent français quand il parle en anglais en norvégien. Et j'ai appris que l'accent français en norvégien, c'était vraiment très charmant. Donc
elle t'aborde, toi?
Donc, alors, je parle pas avec... J'ai pas un échantillon très représentatif non plus.
À ta petite échelle.
Mais enfin, en tout cas, on sent que passer quelques verres d'alcool, à un moment, genre 2-3 verres, mettre dans un bar où on connaît pas la personne à côté, alors qu'en temps normal, en temps sob, ça ne serait absolument pas envisageable, cette situation, la personne peut venir te parler et va être très chaleureuse.
Et c'est choquant.
Ça me perturbe, moi. On parle du travail, rien que je rentre dans l'ascenseur, je dis bonjour, la personne ne me répond pas, quoi. Et peut-être qu'en soirée, on sera côte à côte à un bar, puis on va se parler spontanément, en souriant, en rigolant, au bout de 10-15 secondes, quoi.
10-15 bières aussi.
Oui. Ah, mais l'alcool aide en général, c'est le désinhibiteur quasiment immanquable, j'ai l'impression. Après, bon, ça c'était pour les rencontres directes. Après, pour ce qui est des applications, peut-être des choses m'échappent. Pour le coup, là, j'avais l'impression que l'homme était plus attendu à l'initiative. Ouais, c'est un peu plus... ça prend plus de temps.
Stan, Anaïs, vous confirmez?
Moi, je confirme ce qu'a dit Valentin, c'est qu'il y a un vrai contraste. Moi, par exemple, j'ai des exemples au travail, quoi. Dans relations professionnelles où ça peut être très froid avec les Norvégiennes, etc. Vraiment distant et tout, mais il suffit de se retrouver dans une soirée après quelques verres d'alcool et ça va être beaucoup plus... Il y aura un rapprochement potentiel, quoi. Et c'est vraiment le contraste qui me choque.
Ouais, il y a un cadre, en fait. Là où je pense, en France, il y a moyen d'approcher en zone grise. En Norvège, je sais plus s'il y a un cadre, il y a un endroit pour le faire et on n'en sort pas. Hein.
Mais est-ce qu'une fois que cette barrière a été brisée, est-ce que quand tu reviens au travail, est-ce que du coup, il y a refermeture?
Il peut avoir refermeture. C'est-à-dire qu'on a passé une bonne soirée la veille, on a discuté et tout pendant une soirée. Et le lendemain, t'arrives, t'es de bonne humeur et tout. Tu lui dis comment ça va et c'est limite si...
ça repart.
Ouais, c'est ça. Enfin, on s'est parlé hier, quoi. c'est vraiment ça. Je sais pas si...
J'ai une anecdote là-dessus. Je travaillais dans une boîte norvégienne, dans l'événementiel, et il y avait un mec, une nana qui se chopait. Ils attendaient tous les ans la Christmas party.
Ah bah oui.
Donc pendant toute l'année, ils buildaient cette tension entre eux pour la Christmas party, allez on chope. Et tous les ans, ils ont fait ça pendant 10 ans.
Mais sans relation.
Ah non, sans relation.
Valentin, tu voulais dire ?
Non, mais c'est vrai qu'il y a Yulebourg, ouais, en général, c'est là où ça... Enfin, Yulebourg, du coup, c'est le dîner de Noël. Donc c'est la grosse fête d'entreprise, en général, en Norvège. J'ai l'impression que
les gens... On oublie tout.
Oui, on oublie tout. Enfin, pour certains, on oublie qu'on
aime. Ce qui se passe en Yulebourg, reste en Yulebourg. C'est vraiment Las Vegas.
Exactement, ouais. On oublie qu'on est marié, tout ça. Apparemment, c'était encore pire avant. Maintenant, ça va un peu mieux. C'est un peu plus sous contrôle.
Honnêtement, le mouvement MeToo a un peu calmé le truc.
Thomas, tu confirmes ?
Exactement. Non, mais c'est vrai. tout ce qui a été dit sur les Yulebourg, parce que bon, les applications et tout, j'utilise pas, mais effectivement, non seulement ça s'est calmé, mais avant, c'est sauvage. Je peux le dire, les cougars de santé. J'ai rejoint une boîte norvégienne. Un des boulots, c'était le 2 décembre. J'ai rejoint cette boîte 2 jours avant le Yulebourg.
Donc, sacré timing.
Bien joué. Donc 2 jours après, je me retrouve dans j'ai eu plusieurs collègues plus âgés du sexe opposé qui sont venus me draguer pendant la soirée, quoi.
Pour revenir au questionnaire, 67% des personnes ont choisi le lieu du rendez-vous et pas la personne norvégienne. Est-ce que ça se retrouve aussi le manque d'initiative ? Parce que bon, d'accord, on demande à la personne, ça dit d'aller boire un café. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a ce manque de propositions ? Est-ce que c'est « ouais, bon, j'irai où tu veux ».
Oui, pour moi.
Ouais, moi aussi. Faut arriver avec le plan. Sinon, sinon on perd du temps. C'est pas efficace, quoi.
Ouais.
Voilà, ce jour-là, je te propose de faire ça. Mais OK.
Et tu penses qu'ils acceptent des choses, même si ça ne les branche pas trop ? Ou qu'ils font une contre-proposition
J'ai jamais été très, très aventurière dans la mais... Non, on m'a déjà, par contre, on m'a déjà emmené faire du ski de fond, quoi. Donc, faut en revenir au pire date de ma vie. Là, j'aurais dû mettre le haut là, je l'ai pas fait. Bon, it's on me, guys.
Il y a quand même des dates assez originaux. Et donc, une auditrice elle nous a partagé qu'elle avait eu un rencard en milieu de journée à Ullevålseter. Donc sympa, ouais. Une petite balade.
Donc au-dessus de Sognsvann, quoi, pour ceux qui connaissent un petit peu Oslo. Ouais.
Donc c'est une histoire de se parler, ce pote assez original.
Ça arrive parfois que les personnes préfèrent marcher. Première rencontre, les personnes préfèrent marcher.
De se dire, allez.
Ouais, je pense que ça doit décompresser. Ouais, c'est un truc très scandinave, ça.
Ou alors c'est débloquer la conversation, débloque les gens, on débloque. Ouais.
Vas-y, emmène tes skis, puis si tu sais pas ce qu'il est, c'est bon.
C'est rédhibitoire.
Le thème qui, par contre, tout le monde est d'accord, c'est qu'à chaque fois, l'addition était partagée. C'est pas l'homme ou la femme qui paye l'addition.
C'est un faux pas. C'est vraiment mal vu de payer pour la personne. Surtout si on a un mec, c'est pas bien vu.
Tu sens que c'est mort ?
Ouais. Enfin, c'est pas que c'est mort, mais en tout cas, c'est pas apprécié du tout. Ouais.
Moi, je m'attendrais pas à me faire inviter non plus. Ouais.
Et après, donc, si le date a marché, on a 50-50. Hein, c'est ou bien la personne française ou la personne norvégienne qui a pris les devants pour dire « Bon, écoute, tu me plais. Est-ce que ça te dit d'être ma copine ou mon copain ?» Donc, c'est assez partagé. Est-ce que vous avez des anecdotes de dating cocasse à partager ?
Il y a un mec qui a essayé de me convaincre de lui faire une tarte tatin.
Ah, c'était mal parti cette phrase. Mais il y a histoire.
Je sais plus, on a discuté sur une app et tout. Et il me dit que son dessert préféré, c'est un dessert français. Je fais ah ouais, lequel ? Tarte tatin. Je fais ah, attends, moi aussi, c'est un de mes préférés. Il essaie de me convaincre de lui ramener une tarte tatin. Un jour,
mais
en premier date.
Tu vas faire une tarte tatin.
Puis on se connaît pas, frérot. Je vais surtout pas.
mais c'est-à-dire, il y avait eu un contact où c'était d'entrée comme ça.
Non, c'était une discussion via une app et puis.
Vous n'étiez pas rencontrés.
On s'était pas rencontrés. Le mec qui croit, je vais ramener avec un dessert quoi. Fait maison.
Ça sera
c'était catastrophique. Alors je dis heureusement que j'ai pas.
Après le problème, j'ai l'impression que la communication en général est pas parfaite quoi. C'est les gens se disent pas les choses. Là où je m'attends à plus de franchise au niveau en France en général, en Norvège j'ai pas trop ça en fait. C'est dur de percer à jour ce que la personne pense et du coup ce qui fait que parfois on peut faire un faux pas sans s'en rendre compte et on se fait reprocher après. Mais ouais, la communication est pas aussi facile au début.
Hyper fluide, pas hyper. Ouais. C'est dur de sortir des choses un peu bateau, c'est pas beaucoup de spark. Ça met du temps avant de décoincer.
C'est plutôt un entretien d'embauche.
Un peu, ouais.
On se calcule un peu, on s'appréhende.
Et parce que le Norvégien et la Norvégienne, on a l'impression qu'ils ont besoin d'être en confiance, de se sentir...
Ça met un certain temps.
Il y avait un mec que j'avais... je sais plus, on avait dû se matcher sur Tinder, ça s'était jamais trop fait, bon bref. Et entre-temps, j'étais plus sur les apps, parce que j'étais plus célibataire. Il est allé me retrouver 2 ans après sur LinkedIn.
Oh, le stalker.
Et genre, m'envoyer des messages et tout, et il continue.
Si tu nous écoutes, arrête.
Il a appris le français, là, je pense. 2 ans.
Et il donne des cours à l'Institut français.
Hein. Et des histoires qui marchent aussi en Norvège. Hein. Des couples franco-norvégiens. Je dis ça pour rassurer. Quoi.
Mais oui, mais tu vois que Emma, pour une fois, elle aurait pu parler de sa grande histoire d'amour avec son compagnon. Mais non, elle n'est pas là pour en parler. C'est un sujet qui n'est pas présent dans ton site norvège.no. Il n'y a pas des petits tutos amour-relation
En général, j'écris ce que je maîtrise, on va dire. Non, j'ai pas d'expérience du tout là-dedans. Donc... Mais par contre, si quelqu'un veut contribuer, n'hésitez pas, je vous publie. Hein. Je sens que là, il y a de la matière, on peut peut-être écrire un truc ensemble.
En vrai, j'ai pensé, mais ça touche un peu du coup le sujet. Mais par exemple, pour la MST, le dépistage et tout, c'est vrai que tu as peut-être un truc à ajouter. Quoi. C'est quand on est étranger, parce qu'en France, on sait comment
et
ça
se. La grosse réputation de la Norvège.
Ouais, et puis en Norvège, en plus, je crois qu'avec la média, ça circule pas mal. Les rapports sont pas très, très souvent protégés.
Qu'il y avait dans Oslo-Est. La station de train principal.
J'ai pas vu.
T'as pas connu ça? Je cherche sur internet des publicités. Ils disaient, je sais plus, Narvesen, je pense, avait fait des affiches. Bienvenue en Norvège, le pays de la chlamydia.
Ah ouais, d'accord.
Ça dans tout Oslo.
Ouais, dans toute la station de train d'Oslo, y compris tu sais, les trains qui viennent de l'aéroport. Quoi.
Ça donne envie.
Ça fait coup de pied.
Juste pour rebondir sur le sujet, moi, en tant qu'expérience au lycée français, et surtout pendant la période de russe.
Le russe.
Ouais, ouais. On avait. En tant que Français, on avait beaucoup plus de facilité que en France avec des Françaises, avec des Norvégiennes ici, quoi.
Et tu t'es incrusté dans des groupes de Russes, du coup?
Dans des groupes, parce que nous, on avait notre propre groupe au lycée français, mais on n'avait pas de bus, parce que pour des questions de moyens, etc. Mais on avait fait une musique qui est toujours sur Spotify, et donc on avait un groupe qui s'appelait Moulin Rouge. Et donc, j'ai la tenue, on a la paille, ouais. Et voilà. On a été à l'OTAN de notre réputation. J'ai regardé bons souvenirs.
Brisons les classes. Mais du coup, toi qui es ici depuis quelques années, est-ce que parce que bon, au lycée français, c'est quand même un mix.
C'est un mix franco-norvégien.
Il n'y a pas que des Français, les Françaises.
Il y a des purs Français, enfin, ce que j'appelle des purs Français, c'est où les deux parents sont Français. Après, il y a des franco-norvégiens et il y a très peu de Norvégiens, on va dire, avec des parents non Français. Il y en a eu, mais en fait, ils quittent souvent avant le bac. Ils quittent 2-3 ans avant le bac parce qu'ils trouvent que le niveau est quand même assez élevé. Et en fait, on voit quand même la différence.
Mais du coup, dans la question... culture du dating, est-ce que toi, tu te ressens plus être avec des Français, Françaises, ou plus avec la culture norvégienne?
Non, plus avec des Français, en fait. Moi, c'est plus avec des Européens, on va dire, qu'avec des Norvégiens, en fait. Mais je sais que... en fait, ça dépend vraiment... Moi, quand je regarde mes amis et tout, la plupart, je pourrais pas te dire.
Après, c'est aussi l'idée de si tu te maques avec un Norvégien et une Norvégienne, tu te dis, bon, moi je vais rester bloqué ici, quoi. Je vais plus jamais pouvoir partir.
Je pense qu'à un moment, l'apprentissage de la langue, ça s'impose.
Mais en fait,
quoi.
Ça dépend, c'est ça. Ça dépend aussi. Moi, je sais que quand je regarde un peu mon cercle d'amis, ça dépend aussi de ceux qui ont une culture vraiment norvégienne. Donc, ils vont plus s'orienter. C'est-à-dire qu'ils ont habité toute leur vie ici, même s'ils parlent français et tout. Eux, ils vont plus s'orienter vers des Norvégiennes. Et ceux qui ont une culture plus française, comme moi et tout, on va plus s'orienter vers des non-norvégiens. Donc, ça dépend. Et plus tu vas vers des pays comme Italie, Espagne, etc. etc. quoi. Donc, ça dépend vraiment, ouais.
Une question pour toi, Thomas, sur les réseaux, où on te demande est-ce que tu es plutôt Langren ou est-ce que tu es plutôt ski hutta?
Ok, je vais répondre de façon très générique, du ski. Hein. Je suis.
en général.
Parce que je fais beaucoup de Langren, surtout du classique, même si j'ai plusieurs paires de ski, y compris du skating. Mais j'essaye, mais c'est quand même beaucoup plus dur. Hein. C'est quand même beaucoup plus difficile. Et puis le classique, c'est quand même plus réputé en Norvège. Après, effectivement, je vais aussi dormir en cabine, si on parle de ski chez Hita. Ouais. Ça m'est déjà arrivé aussi de le faire en semaine. Côté d'Oslo, en décembre, je prends les skis le soir après le travail, je vais dormir en cabine, et puis le matin, je me lève tôt et je me dépêche pour rentrer avant les premières réunions au boulot.
Ah ouais, d'accord.
Par contre, je ne fais pas de top tour. Donc c'est
les top-tures.
Ouais, c'est le c'est d'autres types de ski ou
randonnée.
Tu...
Hein.
Ouais, ah, que tu fais vraiment un truc hors piste quoi, presque.
Voilà. Hors piste, c'est en général tu vas en hauteur. Vraiment, tu cherches les sensations fortes au niveau des centres, parce qu'après, il y a aussi des fialchi, où ça, c'est entre les deux. C'est des skis de fond un peu plus gros, avec l'écart en métal, et c'est du hors-piste, mais au ski de fond, c'est-à-dire que tu as quand même moins de dénivelé, en général. Et ça, je veux bien m'y mettre.
C'est pas du télémarque aussi.
Et, alors, Télémark, c'est encore autre chose. Ouais, il y a 5-6 types de ski. Il y a un article sur norvège.no là-dessus.
Ah, bah, pourquoi on te pose la question ? On aurait dû aller sur le site.
Non, non, mais pour ceux qui veulent aller un peu plus en détail, voilà, il y a cette option. Par contre, je veux bien me mettre au fialchi. Ça a l'air super, mais c'est toujours pareil. En Norvège, c'est difficile de louer. Il faut investir dans le matériel. Si tu ne sais pas si tu vas aimer ça, enfin, c'est compliqué. Quoi.
On a des questions par rapport aussi au réseau de français. Est-ce que t'en as un peu marre des questions
Quelles questions Quelles tu répondais le plus souvent?
Ah ouais, oui, clairement, s'il y a des questions qui méritent, oui. Non, mais c'est tout ce qui est comment on obtient le T-numer, comment on trouve du travail quand on parle ni norvégien ni anglais. Après, c'est un peu de travail sur moi sur certains trucs, parce que comme je passe un peu trop de temps sur ce groupe, je sais aussi les sujets qui ont été évoqués des milliers de fois, si tu veux. Je te donne un exemple, c'est les espèces de gâteaux à la cannelle très fins qui sont plutôt...
Spéculoos.
Non, ouais, voilà. Si, les spéculoos. Il y a toujours...
Quelqu'un qui veut des spéculoos ?
Ouais, une à deux fois par an, et c'est toujours la même réponse. Enfin, je veux dire, il n'y a pas 1000 magasins qui les vendent, tu vois, au bout d'un moment, tu cherches spéculoos, tu vas l'avoir, ta réponse. Tu n'es pas obligé de la demander, voilà, quoi. Tu vois, c'est plus c'est le genre de question où je sais que ça a déjà été traité 1000 fois, quoi.
Est-ce que tu es amené à aider les touristes en perdition ou
Heureusement, non. En général, les touristes ne me trouvent pas, ce qui est plutôt une bonne chose. Par contre, ils trouvent l'ambassade ou l'Institut français, enfin des trucs qui n'ont rien à voir. Parce que, par exemple, il y a aussi des associations comme la DFE, des associations des Français d'étrangers. J'ai entendu des anecdotes. Le numéro de téléphone du président de l'association est sur le site.
Pour le regard.
C'est ça. Et en fait, ça
arrive. Nuit et jour.
Son but de cette association, bon, c'est. En tout cas, c'est pas d'aider les touristes. Ouais. Tu vois. Mais plein d'anecdotes, du genre, sa voiture, un touriste, sa voiture, elle a lâché, bah, elle trouve le numéro sur l'ambassade en disant aidez-moi, qu'est-ce que je fais ? Je sais pas, tu t'appelles un garage, et puis si ta voiture, elle est vraiment pas bien, bah, tu t'achètes un billet de retour en France, enfin, tu vois. Mais des questions comme ça, il y en a plein. Après, moi, on m'a trouvé aussi parfois. Il y a des gens qui me disent oui, j'ai loué une voiture sur Rent-A-Wreck, elle est sale, qu'est-ce que je peux faire ? Et je suis là, genre, mais tu leur parles ?
C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu.
Il y a une question qui m'a marqué, c'est la personne qui dit j'arrive en Norvège, est-ce que je peux rajouter un bagage supplémentaire ? Et déjà, quelle compagnie ? Déjà, quelle compagnie ? Et après, une fois que tu dis la compagnie, ben, tu les contactes, tu vois avec eux, enfin, je sais pas, mais tu vois, il dit même pas la compagnie, c'est genre, vous êtes des Français en Norvège, vous devez vous y connaître en bagage en soute. Mais j'ai aussi croisé d'un genre incroyable, c'était improbable, une personne qui avait déjà déménagé à Oslo, et qui, grosso modo, avait, bon, a priori, hérité d'une grosse cave à vin, ok, qui avait beaucoup de bouteilles, et qui s'est dit, je vais déménager à Oslo, je vais ouvrir une boutique de vente de vin.
Oh yes.
Et donc, cette personne que j'ai rencontrée, qui était déjà sur place à Oslo, je lui ai dit, il y a un monopole ici, il y a un monopole, hein. Tu vas pas pouvoir vendre des bouteilles de vin. Ah bon, et tout. Déjà, au début, elle a mal pris. C'est pas ma faute.
Quoi mais tu places mon rêve.
En général, j'essaie toujours de trouver des solutions. Okay. Ouais. Et donc là, cette personne, je lui ai dit, écoute, tu veux écouler du vin, ouvre un bar à vin. Et donc, je lui ai même envoyé, tu sais, comment ouvrir, les démarches à faire. Et donc, elle revient deux jours plus tard, vraiment, elle dit, non, c'est les documents, ils sont en norvégien.
Et la licence, oui, il faut la passer en norvégien.
Ouais.
Tu devrais les répertorier toutes ces années-là, franchement.
Un nouvel onglet qui se dessine sur le site.
Et en termes d'investissement d'heures par semaine, le groupe Facebook, ça te prend environ combien de temps
Trop.
Trop.
Ouais, j'y passe au moins, au minimum, une heure par jour.
Ok.
Mais t'es pas tout seul.
Non, mais moi, j'y passe une heure par jour. Mais après, il y a d'autres modérateurs pour le groupe Facebook. Mais après, attends, il y a le groupe qui s'appelle donc la communauté française à Oslo, que j'ai dû renommer. Parce que ça s'appelle. Il y avait deux groupes, les Français à Oslo. Ouais, le deuxième, c'est un mec qui n'est même pas en Norvège. Il y avait de la merde qui se passait dans son groupe. Et c'est moi qui me prenais les reproches. Donc, j'ai renommé le groupe. La communauté française à Oslo, mais j'ai d'autres groupes, en fait. Il y a aussi un entrepreneur, aide entrepreneur en Norvège. Il y a emploi, job, stage. où j'essaie de poster les annonces pertinentes pour les Français en Norvège. Et celui des petites annonces, honnêtement, aussi. Donc ça fait au moins 4. Mais d'ailleurs, et Facebook, en fait, me les brise aussi. Par exemple, le groupe Emploi, Stage et Job en Norvège, okay, sur lequel j'essaie de poster toutes les annonces que je vois pertinentes pour les gens. Mm-hmm. Il y a 2600... En tant qu'administrateur de groupe, je vois chaque message, combien de fois ils ont été lus. Okay, j'ai la possibilité de voir... Mm-hmm. Il y a 2600 personnes sur ce groupe d'emploi. Là, cette semaine, j'ai posté 2 ou 3 annonces vraiment pertinentes. Mmh. Où genre, parfois, il y a des jobs où on te demande de parler français, on s'en fout du norvégien, par exemple. Tu vois, y en a une qui a fait 61 vues. Il y a 2600 personnes. C'est mon groupe, je suis administrateur, je poste un truc. Bah, Facebook se dit, ouais, je vais le montrer à 61 personnes. ça démoralise aussi un peu. Tu vois.
On va faire une petite pause musicale. Je suis parti en live et choisi Le Petit Pain au Chocolat de Joe Dassin.
Et pourtant, elle était belle, les clients ne voyaient qu'elle. Et quand on y pense, la vie est très bien faite, il suffit de si peu. D'une simple paire de lunettes pour accrocher 2 êtres et pour qu'ils soient heureux.
Brisons la glace.
Eh bien, de retour dans notre podcast de Brisons la glace. On a parlé en long, en large et en travers de la Norvège, des règles de dating, du système politique avec toi, Thomas. Et on va passer à ta première chronique, Anaïs.
Oui.
Tu vas nous parler de quoi ?
Je vais vous expliquer en gros la genèse de l'idée de cette chronique. Donc, on parle beaucoup de l'impact positif qu'on essaie de créer à notre échelle individuelle, pour des raisons de morale, de bienveillance, ou si vous vivez en Chine, pour améliorer votre score social.
Très important.
Eh bien, moi, je vais vous parler de notre impact négatif, et surtout quand il passe inaperçu pour nous, ou pire, quand on pense bien faire. Aujourd'hui, j'attaque donc ce premier sujet sur les saunas extérieurs. Je vais vous présenter le top 3 des trucs qu'il faut vraiment arrêter de faire. Donc je suis allée interviewer Christine, qui est la fondatrice de Cook, et Vlad, qui est un de nos compatriotes, qui était co-manager de Greenboat. En troisième position. Et on m'a précisé que c'était un truc que seulement les Norvégiens font. C'est de mal fermer la porte.
quand on sort du sauna.
C'est-à-dire de mal claquer. Il y a un petit clapet quand on sort du sauna. Et qu'on va en extérieur. Et le fait de mal fermer cette porte, et ben la facture d'électricité, elle en prend vraiment un coup. Et ils s'accordent à dire, Christine et Vlad, donc que c'est typiquement un truc de Norvégien. Alors, soit ils n'ont aucune notion d'inertie thermique, soit ils s'en foutent un peu du gaspillage d'électricité. Donc, deux possibilités.
Quand on vit avec des colocs norvégiens, c'est aussi ça qu'on fait.
Ouais,
avec les portes.
Ah ouais.
Et
le chauffage et tout.
Oui. À peu près tout. Oui. En deuxième position, quand on saute dans l'eau et qu'on s'éloigne un peu trop. Parce que là, il faut savoir que c'est le manager du sauna qui est responsable d'aller vous chercher s'il y a quoi que ce soit. Et c'est vrai, quand il fait bien froid, là, en hiver, on n'est pas à l'abri
d'une noyade,
d'un accident, d'une crampe, de n'importe quoi, d'une grosse hypothermie. Ne pas aller s'aventurer trop loin du sauna quand on va dans l'eau. Et enfin, est-ce que vous avez une idée de ce que c'est le pire truc à faire pour
ramener de l'alcool.
Alors, faut pas trop boire, ils disent à peu près 2 units per person. Ouais, en gros, 2 bières.
Okay. De l'eau salée sur le sauna.
Yes. Quand on remplit le seau avec l'eau du fjord et qu'on met ça sur le poêle. Alors, il faut savoir que c'est l'appareillage qui coûte bien sûr le plus cher en termes de pour la corrosion, enfin c'est horrible.
Ouais.
Mais par contre, ils disent aucun souci pour verser un peu de bière, ça fait une odeur de pain et tout, très agréable.
Okay. Au prix que ça coûte.
Au prix, ouais.
Tant que vous consommez local.
Ouais. vous aimez-vous aller faire des saunas en extérieur?
Moi, j'adore.
Ouais.
J'adore personnellement. Bah, je vais y retourner demain, j'adore, ouais. C'est vraiment une passion.
Et tu fais partie de la team qui saute quand il fait moins 15 dans le fjord?
Ah oui, 100%. Là, j'étais à 2 semaines, il y avait de la banquise et tout, je nage, donc bon, je reste 2 minutes, quoi. Mais, non, mais limite, il faisait trop chaud à l'intérieur, donc je suis resté 1 heure dehors en plein soleil, puisqu'il y avait un petit soleil, donc c'était très agréable, et puis je sautais toutes les 2 heures dans l'eau, quoi. Donc c'était... Non, j'adore. Même pour le corps, ça fait un bienfait fou. On se sent assez fatigué à la fin, personnellement, mais non, c'est super agréable. Moi, je suis vraiment un grand fan, quoi.
Ouais, moi, c'est Oslo, bas de Stua. Enfin, j'aime vraiment l'endroit. Après, j'ai pas fait beaucoup de sauna en Norvège, mais c'est vrai que cet endroit-là, il est vraiment cool. Enfin, les saunas flottants. Bon, dès que j'ai mes parents qui viennent, on va faire un sauna flottant. Et j'en ai fait un avec l'entreprise aussi. On était, je sais pas, de 13, 14 dedans. Et enfin, c'était vraiment un gros sauna. Et c'est un truc sympa à faire en entreprise aussi. Ça peut déstabiliser encore une fois quand vous êtes français. Vous n'êtes pas prêt à faire un sauna avec, ouais. avec vos collègues. Mais...
Il y a juste un truc pour moi, c'est que les saunas flottants, maintenant, c'est vraiment emblématique d'Oslo, mais c'est nouveau. Ouais. Je veux dire, quand je suis arrivé, il y avait zéro sauna à Oslo. Je me souviens des touristes, parfois français, qui disaient « Ah, on vient à Oslo, on veut faire un sauna. » Oui, c'est pas possible. Alors que maintenant, c'est l'emblème presque de la ville.
Et l'histoire de ces saunas-là, elle est marrante aussi. Enfin, je crois que c'est Oslo Bad Stua, mais en fait, c'était au début, c'est une personne qui avait commencé à faire son propre sauna flottant avec du matériel de récup. Et il avait arrimé, je crois, à Cœur-Brieuc. Et puis après, du coup, la commune, au début, n'en voulait pas. Du coup, il commençait à rentrer dans des conflits juridiques. Mais en fait, dès qu'il avait un avis d'expulsion, il arrivait juste à déplacer son sauna flottant, à l'arrimer ailleurs. Et à un moment, c'est au fur et à mesure où il y a eu... Sociologiquement, ça va être intéressant à étudier, mais du coup, au moment où il a été pris en photo par un footballeur norvégien super connu, je ne sais plus lequel c'est, ce footballeur s'est pris en photo devant le sauna, là, ça a eu un succès fou et il a commencé à avoir les faveurs de la population et il a réussi à établir son sauna flottant au pied des bâtiments rutilants comme l'Opéra ou Musée Munch. Quoi.
Ouais, c'est super le sauna. J'étais surprise que tu ne parles pas du. Est-ce qu'il faut être silencieux ou pas?
Ah oui.
Dans le sauna, parce qu'il y a des gens qui sont hyper irrités, quoi. Si tu commences même une petite conversation avec ton voisin, c'est...
Ah ouais, bah c'est deux salles, deux ambiances. Est-ce que tu y vas pour sociabiliser ou est-ce que tu y vas pour te détendre? Est-ce que... ouais, c'est sûr.
Bah après, ça, par exemple, typiquement l'endroit Salt, c'est là où, du coup, on a les larmes sauna et puis un DJ qui passe de la musique en même temps. Ouais, on s'imagine que c'est pas là qu'on se détend, ouais. Je sais pas, mais c'est vrai que c'est dur un peu de se dire où est-ce que je peux avoir un sauna où je peux véritablement me poser, me détendre, quoi. Je sais qu'à Oslo Bastua, ils font des séances publiques, en groupe, avec des personnes que tu connais pas, mais j'ai jamais vraiment essayé. Ouais.
Oui, oui, après, il y a aussi l'aspect la nudité.
Ouais, tout ça.
Oui, c'est quelque chose, c'est quelque chose qu'on a abordé, surtout avec Vlad, pour le coup, parce qu'il dit, beaucoup de filles se dénudent alors que c'est pas autorisé. Et il dit, après, je peux pas, moi, rentrer et leur dire de se couvrir. Ouais. Ils disent, ça me met dans une position où je suis obligée de les faire. Mais non, a priori, il faut rester au moins en maillot de bain.
C'est une sacrée expérience. Le sauna, j'ai pas fait de sauna flottant.
C'est pas toi qui allais récupérer la Tesla.
Non, j'ai vu.
Du coup, apparemment, c'était c'était vraiment des Français qui ont récupéré cette
sauna. Non.
Les Français étaient dans le sauna.
Ah. C'est vrai?
Les clients du sauna, donc pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, pourtant elle a fait le tour du monde, elle était même en France. Il y a une Tesla qui a fini dans le fjord d'Oslo et ils ont été secourus, les deux passagers, par un des saunas flottants. Et les clients à ce moment-là du sauna flottant étaient français, mais pas les passagers.
Faut l'interviewer, ce mec.
Est-ce que tu peux nous organiser une rencontre avec...
Vu que t'as le bras long.
Parce qu'on parle de Benoît Paire à Avignon, on peut aussi demander pour un sauna. Hein. Ça peut le faire aussi. Hein. Merci pour ta petite chronique, c'était super. T'as une idée d'un projet prochain sujet?
Alors, j'en ai à l'appel.
J'allais suggérer le ski de fond, mais j'ai compris que c'était pas l'idée.
Si, il y a peut-être l'idée d'aller interviewer les loueurs de matériel ou les gens qui travaillent sur les pistes, voilà, sur aussi tout ce qui est do's and don'ts. Et j'ai plein de sujets en tête.
Eh bien, merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. On se retrouve sur Instagram, sur Spotify.
Et sur Twitter.
Sur Twitter. C'est quoi notre handle?
Brisons la glace.
Et SoundCloud, évidemment.
N'hésitez pas à donner des idées de sujets et à nous contacter, à faire des messages d'encouragement, c'est apprécié.
Dans le prochain épisode de Brisons la glace, nous parlerons du concours de l'Eurovision 2024 qui aura lieu en Suède et des prochains événements culturels avec Jean-Nicolas, nouveau membre du podcast.
Comment... une personne, enfin une entreprise, récupère l'aura de Banksy pour se faire de l'argent, parce que au final...
Parce que là, Banksy, il n'a rien à voir avec ce monde de mystery of Banksy.
Absolument pas.
Nous évoquerons aussi des avancées technologiques en Norvège. Certaines sont presque centenaires.
Je suis la seule à ne pas connaître le mot rabot.
Bah, visiblement.
C'est ça, la honte.
D'autres nous offrent un aperçu de notre futur.
Elle des livraisons de bouffe. J'imagine le nombre de gens qui vont être avec des lance-pierres ou des tirs à l'arc pour essayer d'intercepter
le burger de la mort.
Si cette émission vous a plu, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de la partager autour de vous, avec un ami, et de donner un petit coup de pouce sur les réseaux sociaux. Merci de votre soutien. Ciao.